En une année, nous avons changé le visage de la vie politique française.
Avec Emmanuel Macron dans ce budget, ce sont toujours les mêmes qui vont payer, les classes moyennes.
Ce résultat est historique. Je suis la candidate du peuple.
Cette marche citoyenne, cette insurrection.
L'actualité politique en France, pour en comprendre l'intérêt et le poids, voici Dimanche Politique.
Philippe Le Caplin.
Avec Adrien Delgrange, les prises de position des responsables politiques, puis l'analyse d'Olivier Roucan, politologue, enseignant-chercheur en sciences politiques, auteur du livre « En finir avec le président » aux éditions François Bourin. Ce dimanche, la majorité prend la défense du ministre des Comptes publics. Le journal Le Monde a révélé que Gérald Darmanin est visé par une plainte pour viol. Soyons précis car les faits sont graves. Après une première plainte classée sans suite l'année dernière, le parquet de Paris annonce la réouverture d'une enquête pour des faits qui datent de 2009. Gérald Darmanin conteste catégoriquement ce qu'affirme la plaignante, Adrien Delgrange.
Et c'est le ministre des Comptes publics lui-même qui a commencé à en parler dans les médias. C'était il y a quelques jours sur France Info.
J'ai reçu au début de ma nomination de ministre une lettre de dénonciation calomnieuse. Une lettre infâme qui a été donnée au garde des Sceaux, qui écrivait, qui m'accusait d'abus de faiblesse, d'abus de pouvoir, voire de viol. Il y a eu des investigations. Au bout d'un certain temps, cette enquête ne donne rien, évidemment, puisque tout cela est faux. Donc une affaire classée judiciairement n'est manifestement pas classée médiatiquement. Vous voyez, ce genre de choses, ça vous touche très personnellement.
Et depuis, Gérald Darmanin ne veut plus s'exprimer publiquement sur le sujet, mais depuis hier, l'affaire est relancée, le parquet de Paris a rouvert le dossier et ce matin, les membres du gouvernement font bloc derrière le ministre, à commencer par la ministre de la Justice. Sans mise en examen, il reste au gouvernement.
Les règles sur le maintien au gouvernement d'un ministre sont extrêmement claires. Elles ont été posées et rappelées à plusieurs reprises par le Premier ministre, donc il n'y a pas de doute là-dessus. Dans la situation actuelle, Gérald Darmanin peut rester au gouvernement.
Nicole Belloubet sur RTL. Le ministre de l'Agriculture, Stéphane Travert, a pour sa part relevé sur BFM que l'ancien maire de Tourcoing aurait à se défendre et qu'il aurait également à amener tous les éléments pour parfaire sa défense. Mais c'est la présomption d'innocence qui, bien évidemment, s'applique à lui comme à tout concitoyen. Dans l'opposition, seule l'ancienne ministre socialiste de la Famille et actuelle sénatrice, Laurence Rossignol s'est montrée plus critique.
Les faits sont embarrassants à la fois pour le ministre des Comptes publics et globalement pour le gouvernement, et en particulier pour un gouvernement qui a inscrit l'égalité femmes-hommes au premier plan de ses projets pour le quinquennat. Et cet équilibre-là, il exige de la justice, de la rapidité et une mobilisation à la fois à l'égard des victimes et à l'égard des personnes accusées. Et il faut articuler présomption d'innocence et respect des paroles des victimes.
Laurence Rossignol, ce matin sur Radio J.
Olivier Roucan, bonsoir. Et donc, je le disais, enseignant-chercheur en sciences politiques, embarrassant, une affaire embarrassante, dit Laurence Rossignol, en pesant effectivement les deux éléments. C'est également votre opinion, votre analyse.
Bon, disons que sur le plan de l'opinion publique, ça pourrait être embarrassant dans la mesure où le gouvernement s'est positionné de façon assez tranchée sur l'enjeu de la lutte contre toute forme de violence, comment dire, à l'encontre des femmes. Et là, donc ça pourrait être embarrassant si ce ministre était pris en défaut. De la même manière que ça a été très embarrassant d'avoir une affaire touchant, on va dire, le financement de la vie publique dans d'autres gouvernements, parce qu'ils en avaient fait un enjeu fort. Ceci étant dit, pour l'instant, c'est toute la logique judiciaire et donc celle de la présomption d'innocence et des étapes de la procédure qui doivent prévaloir. Donc, il est beaucoup trop tôt pour dire ou penser que cela fragilise ou que cela met en défaut ce ministre et le gouvernement.
Sachant que ce ministre est un ministre important.
Oui.
On va le rappeler, puisque c'est quelqu'un qui était Les Républicains, donc une prise de guerre pour Emmanuel Macron, et qui, alors que l'on parle de réforme économique et financière, est à Bercy.
Est à Bercy, il est chargé aussi de la réforme de l'État, ce qui n'est pas une mince affaire, avec un projet de loi en cours d'examen sur ces questions. Donc c'est un ministre stratégique, évidemment, le Premier ministre d'ailleurs, hein, a tout de suite dit qu'il conservait la confiance. Alors il est vrai que si tout ceci ne prend pas fin assez vite, ça pourra donner une impression de fragilisation du gouvernement, alors que Nicolas Nicole Belloubet elle-même était un peu malmenée ces derniers jours.
Vous écoutez Dimanche Politique.
RFI, Philippe Le Caplain.
Clivant, hautain, trop occupé à courir après l'extrême droite. Un mois à peine après avoir été élu à la présidence des Républicains, Laurent Wauquiez est déjà fortement contesté au sein de son parti. Il a pu le vérifier hier lors du Conseil national qui se tenait à la Mutualité à Paris. Il y a eu des remous sur la composition des instances et des huées visant Valérie Pécresse, Adrien Delgrange.
C'était un Conseil national des Républicains qui avait pour but de recoller les morceaux au sein de LR, mais à la tribune, Valérie Pécresse a affiché son désaccord sur la politique droitière du nouveau chef de file des Républicains.
Aujourd'hui, il y a deux droites. Et nous ne regagnerons que si ces droites savent s'écouter, se parler et se comprendre.
Réponse à la tribune du Tac au Tac, signée Laurent Wauquiez.
Je crois et j'en suis profondément convaincu, il y a une droite, une seule famille politique.
Laurent Wauquiez qui peine à rassembler le jupéiste Maël Decalan ironise sur le non-renouvellement des figures au bureau national des Républicains.
J'entendais tout à l'heure la lecture de la liste de la commission d'investiture des Républicains. Le premier nom qui a été annoncé, c'est celui de Michel Alliot-Marie. Je suis pas sûr que ce soit un grand signal de renouvellement. On aurait pu aussi demander à Pierre Messmer ou René Coty de siéger dans la commission d'investiture. C'est pas ce qu'attendent nos électeurs, les électeurs de la droite et du centre. Ils attendent des Républicains un très profond renouvellement des pratiques et des visages.
Pour les fillonistes, même son de cloche pour un proche de Florence Portelli, Pierre Lycia.
On assiste à une tentative de verrouillage du parti qui laisse craindre une sacrée purge. Difficile de croire ces belles paroles de rassemblement. Je pense que le rassemblement, ça se décrète pas, ça se construit.
Pierre Lycia au micro de France Inter et puis réaction également de Florence Portelli. Si Laurent Wauquiez est le premier stalinien de l'histoire de la droite, ce sera sans moi.
Olivier Roucan, l'exercice de la réconciliation de la droite, toujours traumatisée par son fiasco à l'élection présidentielle, s'annonce compliqué hein, pour par les nombreuses inimitiés que s'attire Laurent Wauquiez hein, au sein même de son camp.
Oui, il installe un leadership après une période qui pour la droite a été une période de destruction et d'autant plus difficile à vivre que elle s'était mise dans la perspective de gouverner, d'être majoritaire. Donc pour elle, c'était pour les militants mais aussi pour les dirigeants, c'est donc très difficile à gérer y compris psychologiquement. Donc l'installation d'un leadership dans de telles périodes n'est jamais monolithique, n'est jamais aisée et cela donne prise à ces dissensions. Les rapports de force sont en train de se cristalliser. Il n'en demeure pas moins qu'il y a une élection, que ce nouveau leader...
Il est bien élu.
Il a été relativement bien élu, dans tous les cas, si on compare avec l'élection de Nicolas Sarkozy précédemment. Donc relativement bien élu. Et pour le reste, le choix qu'il fait de polariser le positionnement idéologique de la droite classique correspond à un contexte. Et ce n'est pas inédit dans l'histoire. C'est-à-dire qu'on a déjà vu par le passé des leaders choqués. Si on se rappelle de Jacques Chirac, lorsqu'il prend une position au moment de la prise et de la construction du RPR et les années qui suivent, très eurosceptique, très souverainiste, comme on dirait aujourd'hui. Ça avait à l'époque heurté la droite modérée, giscardienne. Donc on se retrouve dans une configuration comparable. Ça ne va pas sans difficulté et on les a entendus, c'est-à-dire des opinions divergentes.
Au sein de son propre parti, maintenant pour ce qui est de l'ensemble des Français, il y a ce sondage Odoxa qui a été publié jeudi. La cote d'adhésion de Laurent Wauquiez est de seulement 15%. Et d'après cette étude, 57% des Français estiment qu'il n'est pas compétent, 61% pas sympathique, 64% pas honnête. Mmh. Il a du pain sur la planche pour se faire adopter. Hein.
Oui, mais encore une fois, comme certains profils par le passé ont apparu au début comme étant anguleux, clivant. Alors Laurent Wauquiez, il est dans ce registre. Et si on se rappelle des premiers commentaires et des premiers sondages sur la personnalité de Jacques Chirac, qui paraissait agressif, qui paraissait nerveux, qui paraissait instable, pour Nicolas Sarkozy, il y avait des traits d'image très négatifs. On le retrouve aujourd'hui avec Laurent Wauquiez. Alors là, il aura par la suite un problème, en effet, sur le plan de l'agressivité et sur le plan du caractère, on va dire, très... très autoritaire.
Mais hein, justement, il y a ce livre dont le titre est Le Dangereux aux éditions Philippe Ray, un livre signé par Philippe Langenieux-Villard qui fait de la politique, qui est membre de la majorité évoquée en région Auvergne-Rhône-Alpes. Il dépeint, je le cite, une gouvernance isolée, une manière de décider sans partage, une peur générale dans les rangs du parti. Il avertit de la menace de voir accéder aux plus hautes fonctions de l'État un homme dangereux par son caractère, ses méthodes et pire son idéologie changeante. Olivier Roucan, comment analysez-vous le politique, pas l'homme, mais le politique Wauquiez?
C'est un, comme vous dites, c'est un politique, c'est-à-dire que c'est une personne qui relègue l'affect et qui est un calculateur, selon moi, ce qui lui permet d'avoir cette plasticité idéologique alors qu'il est tout jeune. Il a défendu à un moment une droite assez sociale, assez ouverte, et puis, au vu du contexte, il est tout à fait capable de vouloir incarner une droite qui se polarise un peu plus sur les questions migratoires, etc. Donc cette plasticité, elle est le résultat d'une personnalité qui est avant tout, comme énormément de politiques, un calculateur. Alors certains qui jugent tout ceci au regard de la morale vont parler de cynisme. Mais si on regarde l'évolution de nombre de politiciens, on est dans des cas de figure comparables.
Vous parliez de ligne politique, on va y venir justement dans un instant. On le voit, en tout cas il y a des questions de personnes, de personnalité, de manière qui opposent au sein de LR. Adrien Delgrange, il y a aussi donc des conceptions politiques différentes.
Laurent Wauquiez, invité de France 2 cette semaine pour un grand oral médiatique. C'était en première partie de soirée. Audience d'ailleurs la plus basse depuis la création de cette émission. Interrogé pendant plus de 2 heures pour présenter son programme, il veut refonder le parti.
Ce que je souhaite, c'est qu'on remette tout à plat, qu'on s'interroge sur les règles du regroupement familial, qu'on s'interroge sur la mise en place de quotas par pays et par métier dans le domaine de l'immigration économique, qu'on remette à plat l'accès aux prestations sociales, parce que ça crée aussi, évidemment, une turbulence dans notre système d'immigration. Ce que je considère, c'est que quand on arrive en France, pour avoir droit aux prestations sociales, il faut avoir cotisé et travaillé un minimum sur le sol français.
Hier, à la Mutualité, dans une ambiance électrique, Valérie Pécresse a plaidé pour l'existence de deux droites, vous l'entendiez un peu plus tôt, pour l'actuelle présidente de la région Île-de-France. Il y a une droite un peu plus conservatrice et une droite un peu plus progressiste, une droite un peu plus protectionniste et une droite un peu plus ouverte. Enfin, une droite qui a l'élection présidentielle à voter pour Emmanuel Macron et une autre qui ne l'a pas fait. En tout cas, sur France 2, Laurent Wauquiez s'est défendu d'utiliser les idées de l'extrême droite.
Vous vous attendez à ce que je laisse le monopole du discours sur l'immigration au Front National ? C'est hors de question. Ça fait trop d'années que la droite a capitulé et qu'elle a renoncé à aborder un certain nombre de thèmes qui sont pourtant fondamentaux pour les Français. Et de la même manière que je ne veux pas laisser le monopole du social à la gauche, je ne veux pas laisser le monopole du discours sur l'immigration à l'extrême droite.
Et du côté du Front National, le sénateur Stéphane Ravier a dénoncé l'hypocrisie du président de LR, dont le gouvernement auquel il a appartenu aurait laissé rentrer plus d'un million d'immigrés en France, plus que sous Lionel Jospin.
Olivier Roucan, il y a une ou deux droites, à votre avis, au sein de LR ?
Ah, alors, au sein de LR, il semblerait qu'il y ait au moins deux droite, mais le problème, c'est de quoi parle-t-on ? Est-ce qu'on parle des lignes idéologiques, des corpus d'idées, ou parle-t-on des organisations qui sont ensuite capables d'investir des élus, de gagner des sièges et donc le pouvoir ?
Alors, c'est toujours le problème puisque vous êtes
lorsque l'on parle de deux, trois, idéologiquement au sein d'LR ou à côté, il y a plus de deux droites. En fait, historiquement, on parle au moins de trois droites, et en fait, certains historiens expliquent qu'il y a huit, si on voit tout le nuancier, huit types de droites, mais alors là, sur le plan de la cohérence des idées. Bon, là, sur le plan de l'organisation au sein des LR, on a l'impression pour l'instant qu'en effet, il y aurait entre deux et trois sensibilités, puisqu'ils refusent le terme de courant, qui sont en train de se structurer. Au moins. Et Florence Portelli, Valérie Pécresse semblent constituer donc une aile, dirons-nous, pour reprendre les termes, plus ouverte, etc. etc. Mais au-delà de LR, il y a cette frange de députés, de dirigeants, mais aussi de sympathisants qui sont quasiment sortis de ce mouvement pour se raccrocher au wagon de cette structuration centrale de la vie politique autour d'Emmanuel Macron, du fait des mesures qui qui sont prises et qui contentent cet électorat et ses dirigeants.
Mais avec une partie de LR qui part chez Macron, une partie de LR qui peut aller du côté du FN, qu'est-ce qu'elle est aujourd'hui ?
Pour l'instant, malgré tout, LR, c'est deux tiers des départements, c'est la majorité des régions, et c'est beaucoup de communes et d'intercommunalités depuis les municipales de 2014. Donc il faut pas...
Ça, c'est pour l'appareil, oui. Mais idéologiquement...
Idéologiquement, pour l'instant, le choix qui est fait, semble-t-il, est de polariser un peu cette droite classique afin de mordre sur le Front National et ce qu'il a... C'est le pari que fait Laurent Wauquiez, et tant qu'il dirigera ce parti, on pourra dire que LR, c'est d'abord ceci, maintenant.
Voilà pour la droite. À gauche, maintenant, il y a 8 mois, il était encore au pouvoir. Puis il a été laminé lors de la présidentielle. Le Parti Socialiste français a connu des déboires avec les législatives, seulement une trentaine de députés. Il poursuit donc sa descente aux enfers, obligé de vendre son siège historique et toujours à la recherche d'un nouveau chef. Eh bien, ce sera bientôt fait, pour cela au moins, les 15 et 29 mars, avec la désignation de son nouveau premier secrétaire, car il y aura 4 hommes en lice, Stéphane Le Foll, Olivier Faure, Luc Carvounas et le favori Emmanuel Morel.
Aucune femme candidate, vous aurez noté, Philippe, pour succéder à Jean-Christophe Cambadélis pour prendre la tête du PS. La candidature de Delphine Batho a été écartée, faute de parrainage nécessaire. Encore moins candidate, Anne Hidalgo, la maire PS de Paris, invitée d'RFI à la mi-journée.
Un chandruine, mais en même temps avec des militants qui restent attachés, avec beaucoup de femmes et d'hommes qui ont encore un espoir, qui aimeraient qu'une force social-démocrate, écologiste, européenne, c'est comme ça que je définis mon attachement au Parti Socialiste. On souhaiterait vraiment que cette force-là puisse exister, mais j'ai choisi la liberté, donc je ne vais pas m'engager dans la bataille interne.
Quant à Richard Ferrand, ancien socialiste et aujourd'hui chef de file des députés La République En Marche à l'Assemblée Nationale, il est guère optimiste sur l'avenir du PS.
J'ai assisté pendant 5 années à un naufrage, parce que, au fond, tout le monde était sur le même bateau, mais c'était à qui jouerait le mieux la termite. Mais encore faut-il aujourd'hui qu'il arrive à faire comprendre quelles valeurs et quelles idées il porte. Or, aujourd'hui, les Français n'y comprennent rien dans ce qu'il veut, le Parti Socialiste.
Richard Ferrand à la mi-journée sur France 3.
Olivier Roucan, sur la descente aux enfers du Parti Socialiste, peut-il écrire en lettres de sang « Macron m'a tué » ?
Il est vrai que pour l'instant, l'emprise sur le plan des dirigeants et sur le plan d'un certain nombre de sympathisants, l'emprise de La République En Marche gêne plus le Parti Socialiste que les Républicains dont nous parlions. Donc,
alors qu'il y a plus de ministres LR que de ministres socialistes.
Oui, c'est ça. Et c'est là toute la ruse et toute l'habileté d'Emmanuel Macron et du Premier ministre. Ceci dit, avec le temps, il va falloir observer si les sympathisants ou anciens sympathisants socialistes continuent à valider le gouvernement et ses choix, dont certains disent qu'ils sont plutôt à droite qu'à gauche. Et la marge de manœuvre du Parti Socialiste, elle est là. Et pour occuper cette place, tout va dépendre de la capacité à avoir un discours clair, ce qui pour l'instant n'est pas le cas.
Et le dernier coup dur en date, direz-vous que c'est le renoncement de Najat Vallaud-Belkacem, qui était le principal espoir aux yeux de nombreux militants, une femme, une jeune femme, avec des valeurs de gauche?
Oui, je ne sais pas s'il y a, si vous voulez, personne n'est vraiment indispensable en politique. Le tout est de trouver un leader qui soit capable de porter un positionnement qui soit stratégique et qui ait une chance de réussite. Et rien n'est impossible, mais le tout est d'aller vite maintenant, parce qu'il y a déjà plusieurs mois de perdu sur l'incapacité du Parti Socialiste, notamment à critiquer un budget qui, sur certains plans, sur le plan du critère droite-gauche, apparaît comme pire, j'allais dire, entre guillemets, que certains budgets votés sous Sarkozy. Or là, on ne les a pas entendus.
Merci pour ces analyses et ces commentaires, Olivier Roucan. Je rappelle que vous signez En finir avec le président aux éditions François Bourin. Quentin Bresson était à la réalisation de son dernier dimanche politique. Merci et bon vent à lui. Dans quelques instants, l'essentiel de l'actualité du monde sur RFI.